phénomène qui inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement? Pillage de magasins, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
La plus rebelle des radios.
What you call is a diamond fella. All you little ways of a comedy of errors. You fellow, but you fellows get clean like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow.
Ah, aujourd'hui, jingle vintage, ça fait longtemps celui-là.
Eh ouais.
Voilà, on trouvait pas notre CD, c'est fait. Eh bien, ce soir, de quoi on va parler?
Alors, moi j'ai une petite info sur des histoires d'assurance chômage qui est à peine une info finalement.
Moi j'aurais une brève sur une action de militants écolos qui a eu lieu ce matin à Paris.
Ensuite on aura le camion info avec le 16e jour de grève de la faim et de la soif d'un militant anarchiste grec emprisonné. Et enfin, et moi j'aurais aussi des nouvelles des Kurdes.
Et puis moi, j'aurai des nouvelles du Burkina Faso, où il se passe des tonnes de choses plutôt moches dans l'ensemble.
Et moi, j'aurai une petite info pour finir, pour compléter la tienne, où il y a eu un double attentat en Somalie hier matin. Et on va commencer par... hop, qui est-ce qui a une brève?
Vas-y, c'est toi.
Vas-y, c'est moi. Oui, mais moi, mon ordinateur, il s'est éteint. Il est dessus.
Bah alors, moi, j'ai qu'à faire ma petite info comme si c'était une brève. Tactique gouvernementale, ça s'appelle, parce que... Alors voilà, quand un projet de loi risque d'être pas mal impopulaire, rien de tel que d'y glisser une mesure vraiment choquante, de manière à pouvoir la retirer à un moment pour avoir l'air de faire des concessions. Par exemple, on se souvient du meilleur exemple de ça, c'était au moment de la loi El Khomri. On avait eu cet article dans le projet de loi El Khomri qui supprimait les congés pour un ou une salariée dont un des enfants mourait. Ou qui les réduisait à une demi-journée au lieu de 3 jours qui étaient prévus avant, enfin un truc vraiment dégueulasse comme ça. Alors bien sûr que ça servait à rien ni à personne, que ça allait pas réellement améliorer la bonne santé du capitalisme, mais ça avait surtout permis de retirer cette mesure monstrueuse pour montrer qu'en fait le gouvernement faisait un pas dans la négociation, qu'ils n'étaient pas si méchants. En ce moment, c'est la réforme de l'assurance chômage qui est discutée. Le but de cette réforme, eh ben, c'est comme les gens, on dirait, sont de moins en moins prêts à faire des jobs de merde, eh ben, il faut les forcer à accepter n'importe quel travail quand les patrons ont besoin de main-d'œuvre. Et comme ça se voit un peu trop que cette loi sert à ça, et que les syndicats sont pas contents du tout, même la CFDT, le gouvernement a mis en place cette tactique de la mesure épouvantail. Comme quand même c'est un gouvernement de branlots, la mesure n'avait pas été prévue dans le projet de loi initial. En fait, même leurs tactiques sont foireuses. C'est donc au moment de Noël, au dernier moment en quelque sorte, que le gouvernement avait annoncé que dans certains cas, alors je ne vais pas redétailler parce que c'est pas intéressant, la durée de l'indemnisation pourrait être réduite de 40% et non pas 25% comme ça avait été annoncé dans les réunions avec les syndicats, de manière à ce qu'au moment des 40%, tout le monde soit et puis que tout le monde s'en émeut. Et de manière assez évidente, personne ne comptait réellement appliquer ces 40%, mais ça a permis hier à Elisabeth Borne d'annoncer en grande pompe et dans sa grande magnanimité qu'elle retirait cette mesure-là et qu'on revenait à ces 25%. Trop merci Elisabeth Borne.
C'est pas souvent qu'on entend merci Elisabeth Borne dans ce studio quand même.
Oui, mais parfois il faut ça.
Ce matin, des membres du collectif écologiste, enfin deux pour être exact, du collectif écologiste Dernière Rénovation ont aspergé en fin de matinée le portail de la façade de Matignon. Les deux militants étaient munis d'extincteurs remplis de peinture orange et ont eu le temps de les vider sur la façade avant de se faire arrêter, puis emmenés dans l'enceinte du bâtiment. Ils ont au passage quelque peu aspergé un gendarme faisant le pied de grue devant l'édifice. Le collectif a indiqué, je le cite, « Tant que le gouvernement continuera son inaction criminelle, nous continuerons à utiliser tous les moyens non violents à notre disposition pour faire entendre nos cris de révolte. » On imagine également le collectif atterré par Macron qui a déclaré lors de ses vœux qui aurait pu, je le cite, prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays. Vous en avez précédemment entendu parler. Dernière Rénovation appelle tous les citoyens qui partagent ces valeurs à rejoindre la résistance civile.
Bah attends, parce que toi, on arrête la musique des brèves, non ?
Ouais, c'est ça.
On est mal coordonnés.
On n'a pas fait de fil aujourd'hui.
D'accord, très bien. Donc c'est pas le camion info, c'est moi alors.
Voilà, c'est toi, vas-y.
Ok, c'est parti.
Quand tu dis ce que tu veux, quoi, vas-y.
Alors, je vais vous donner des nouvelles des Kurdes. Alors, une fois n'est pas coutume, mais au vu de la période, les nouvelles du Kurdistan porteront en majorité sur la France. Un bilan tout de même sur l'année 2022 et les prisonniers politiques en Turquie. D'après l'Association des droits humains de Turquie, l'année passée, 22 prisonniers politiques sont décédés dans les geôles du pays. En plus de dénoncer les mauvaises conditions de détention et les tortures, elle dénonce le manque de traitement médical pour les prisonniers et prisonnières malades. Les prisonnières et prisonniers politiques malades et en phase terminale sont souvent libérés seulement au seuil de la mort, ainsi ne rentrent même pas dans ce classement. Avant de parler plus en détail de l'assassinat des trois militants kurdes du 23 décembre à Paris, un petit détour à Orléans, où était organisé un rassemblement pour dénoncer les meurtres et rendre hommage à ses victimes. Ce rassemblement s'est transformé en petite manif dans le centre-ville et s'est terminé par une verbalisation de plusieurs manifestantes et manifestants pour participation à une manifestation non autorisée. Les organisateurs et organisatrices de ce rassemblement s'étonnent du fait que, deux mois avant, un rassemblement et une manifestation d'extrême droite non autorisée pour Lola s'étaient déroulés sans qu'aucune entrave policière et sans qu'aucune verbalisation n'ait été dressée. Alors, quant à l'assassinat en lui-même, parmi les trois militants assassinés se trouvait Evin Goyi. Evin Goyi, assassiné donc le 23 décembre dernier, en milieu de journée, en plein centre de Paris. Né au Bakour, Kurdistan de Turquie, elle avait rejoint les rangs du PKK, Parti des Travailleurs du Kurdistan, en 1988. Evin a combattu dans les quatre parties du Kurdistan. C'est en prenant part au combat contre Daesh au Rojava qu'elle avait été blessée. Après cette blessure, elle n'a cessé de travailler pour organiser le système communal dans le nord-est de la Syrie. Elle travaillait surtout à y intégrer les autres composantes des peuples du Rojava, en particulier les Arabes, chez qui elle est devenue une célébrité. À la suite de problèmes de santé, elle est venue vivre en France où on lui a refusé le statut de réfugié politique. Elle était, au moment de sa mort, la représentante du mouvement des femmes kurdes en France. Et suite à son assassinat, le mouvement des femmes kurdes en Europe a publié une déclaration. La voici. Le mouvement des femmes kurdes a, une nouvelle fois, été la cible d'une attaque terroriste en plein cœur de Paris. Cet attentat a eu lieu ce vendredi 23 décembre en fin de matinée, alors que le mouvement des femmes préparait la manifestation de commémoration du triple féminicide des militantes kurdes Sakine Cansöz, Leyla Saylemez et Fidan Doğan de 2013. C'est avec beaucoup de douleur que nous avons appris que la représentante du mouvement des femmes kurdes en France, Evin Goyi, l'artiste Mir Perver et Abdulrahman Közel y ont perdu la vie. Ce sont les personnes kurdes présentes dans le salon de coiffure qui ont arrêté l'assassin et appelé la police. Cet homme est actuellement détenu pour « crime à caractère raciste ». Pour nous, en tant que mouvement des femmes kurdes, et pour toutes les organisations kurdes, il s'agit d'une attaque terroriste. Nous sommes face à un nouveau féminicide politique, que nous pensons planifié depuis la prison où se trouvait cet homme pendant un an, puis relâché il y a une dizaine de jours. Aussi, 10 ans après le triple féminicide de Paris, nous ne croyons pas à un crime raciste, car l'expérience nous a montré que l'État fasciste turc répand sa guerre contre les femmes et le peuple kurde qui lutte pour la liberté et la démocratie jusque dans les rues de Paris. Comme des aveux, le lendemain de l'attentat, Süleyman Soylu, le ministre de l'Intérieur turc, annonçait publiquement que Tayyip Erdogan va nettoyer non seulement les terroristes en Turquie, mais aussi les terroristes dans le monde. Avec ses propos, il vise toute la société démocratique kurde qui prône un projet confédéral des peuples dans lequel les femmes sont la force motrice pour la démocratisation de la Turquie et du Moyen-Orient. Süleyman Soylu est connu pour ses déclarations haineuses criminalisant systématiquement les femmes qu'il reconnaît majoritaires au sein des forces militantes du mouvement de libération du Kurdistan. Une fois de plus, le sang des femmes kurdes, l'avant-garde revendiquée de notre peuple, a coulé dans les rues de Paris. Nous faisons la promesse que la ville de l'amour, devenue ville de la mort dans le cœur des Kurdes, deviendra la ville de la vérité et de la justice. Nous ne plierons ni devant le terrorisme d'État de la Turquie, ni devant la justice. Si le secret défense avait été levé, comme nous le demandons depuis plusieurs années, pour permettre aux instances judiciaires françaises de faire leur travail et de juger les commanditaires du triple assassinat de 2013, ce deuxième attentat n'aurait très certainement jamais eu lieu. Si justice n'est pas faite, nous savons que ce que nous avons vécu il y a 10 ans, qui s'est répété aujourd'hui, se répétera certainement demain. Nous sommes en colère, certes, mais aussi et surtout, nous sommes plus déterminés que jamais à mettre un terme à ces massacres. Il faut que les institutions françaises fassent la lumière sur ces assassinats jusqu'au jugement des réels commanditaires. Nous faisons appel à toutes les personnalités et organisations qui croient à la démocratie et à la libération des femmes à nous rejoindre et à continuer ce combat à nos côtés. Tout comme notre camarade Evin, l'une des pionnières qui a mené la révolution des femmes en mémoire de toutes les combattantes qui avaient donné leur vie des montagnes du Kurdistan aux plaines de Syrie, nous continuerons et mènerons notre combat en sa mémoire. Erdogan a amené sa guerre d'extermination de Ahmed à Paris. Notre vengeance sera la révolution des femmes, celle de toutes les femmes, unies pour la paix dans le monde, pour une solution politique au Kurdistan et pour un changement profond de la politique internationale en France et en Europe.
Radio Canu 102.2,
la plus rebelle des radios.
Et voilà, maintenant c'est l'heure du camion info, fait par notre reportrice spéciale en direct de Grèce. Du coup là c'est sur un militant anarchiste emprisonné en grève de la faim et de la soif.
Radio Canine.
Des rues de Lyon.
Excuse-moi, j'ai dit Canine, mais bon, on va dire Radio Canu.
Aux pistes de lointaines contrées. Suivez la reporter des Camions Info du mercredi dans le Camion Info.
Radio
So we are in Monastiraki Square, which is the center of Athens, and we are having a demonstration in solidarity with Thanos Hadziagelou, who is on hunger strike since the 19th of December. It's a hunger strike, but also without drinking.
On est sur la place Monastiraki, au centre d'Athènes, et on est rassemblés en solidarité avec Thanos Hadziagelou, qui est actuellement en prison, en grève de la faim et de la soif depuis le 19 décembre. Il l'a commencé parce qu'il a été transféré de la prison de Korydallos, dans la banlieue d'Athènes, à la prison de Nigrita, à 500 km de là. Ses revendications sont d'être informé des raisons de son transfert et son retransfert à Korydallos. C'est un transfert arrivé brusquement qu'il considère être survenu pour le faire cesser d'agir dans la lutte des prisonniers politiques contre la nouvelle réforme de la loi pénale.
Against the new penal law, what it does basically, it's makes more difficult for prisoners to take leaves from the prison, and also for specific crimes, So for specific crimes, which are political crimes, theft and drugs, it's harder to...
Cette réforme date d'octobre et elle laisse moins de possibilités à la liberté conditionnelle. Aussi, pour certains crimes spécifiques, les crimes politiques, les vols et les crimes liés à la drogue, c'est plus difficile de sortir avant la fin de sa peine. Le pourcentage de peine irréductible a aussi été augmenté.
At the same time, this law makes it more difficult, more strict.
Dans le même mouvement, cette loi durcit les critères selon lesquels les détenus peuvent sortir pour poursuivre des études. Les revendications des détenus dans cette lutte sont bien sûr l'abandon de la réforme qui a été votée en octobre et la possibilité pour tous les détenus d'intégrer les prisons agricoles, qui est le mode d'enfermement le plus ouvert. Il demande aussi de donner la possibilité pour les détenus avec un fort handicap, de 60 à 70%, d'accéder à la liberté conditionnelle.
Ah, and also to give priority to the prisoners that have a 67% disability and above that, to give priority to them to take leave. So the and the, at the same time there are terrible conditions of living inside the prisons.
Par ailleurs, les détenus ont des conditions de détention terribles. C'est aussi la raison pour laquelle ils ont commencé cette lutte le 28 octobre dernier dans la prison de Korydallos à Athènes, mais aussi un peu partout dans le pays.
What the state does basically is trying to delete it from the public view. And there is an absolute silence in the media about what is happening. And what it does is...
La réaction de l'État, c'est d'essayer de les tenir écartés d'une visibilité publique. Il y a d'ailleurs un silence médiatique absolu sur ce qu'il se passe. La stratégie est aussi de mettre la pression à l'intérieur des prisons, l'un des moyens étant par exemple les transferts très éloignés, comme ce qui arrivait à Thanos à Djangeli. Trois autres détenus suivent sa grève de la faim et de la soif en solidarité avec lui.
Donc nous sommes actuellement à la communauté squattée de Prosveika, une communauté qui a été créée en 2011 avec spécifiques valeurs, disons, d'organisation et politique, qui sont, entre autres, l'organisation horizontale, la solidarité, antifascisme, antisexisme, anticapitalisme, anti-institution, anti-state, anti-État, pardon, avec un fonctionnement spécifique et une participation au mouvement local athénien, au mouvement grec, mais aussi international. À partir d'aujourd'hui, donc le mardi 27 décembre 2022, commençant à 1h de l'après-midi, nous entamons une grève cyclique de la faim en solidarité avec le militant Thanos Hatzigiannou. Et ça prendra forme, disons, une personne participera à la grève de la faim chaque jour, aussi longtemps que durera sa grève de la faim et de la soif. Aussi, dans cette lutte que nous revendiquons et cette grève de la faim cyclique, notre camarade Kostas Dimalexis nous joindra depuis la prison. Kostas Dimalexis a été kidnappé et arrêté le 22 novembre. Il a eu des grosses charges, disons, montées de toutes pièces par l'État et ses institutions. Il a au début été mis dans la prison Korydallos, qui est celle, disons, la plus près d'Athènes. Et le 22 du mois, il a été transféré sans aucune information, ni à ses avocats, ni à lui-même, ni à sa famille, à une autre prison qui se trouve à Trikala, à 4 heures d'Athènes, avec cette tactique que le gouvernement et l'État reproduisent encore et encore, d'isolation, principalement des des prisonniers politiques et c'est quelque chose qui se généralise et qui se reproduit de plus en plus. La situation dans les prisons en Grèce pour le moment s'aggrave, disons, et tous les sujets politiques, les camarades qui sont emprisonnés subissent de plus en plus de cette tactique de l'État d'isolement et bien d'autres que j'en passe. Aussi, nous avons 11 camarades qui ont commencé une grève de la faim le 7 août 2022 venant de Turquie, du Front Populaire. Et également, nous sommes en solidarité avec Alfred Cospito qui est en grève de la faim depuis le 20 octobre contre le régime d'isolement qui lui est imposé à lui aussi.
Τρομοκρατία είναι η μισό μισλαβιά, καμιά ειρήνη με τα αφεντικά.
Tout d'abord, c'est pour pouvoir montrer et vraiment se connecter avec nos camarades d'une certaine façon qui sont emprisonnés, de pouvoir avoir cette communication dans la lutte qui sont portées à l'intérieur des prisons. Donc là, maintenant, ça... Il y a un nombre certain de camarades qui ont commencé cette grève de la faim et de pouvoir avoir cette réponse de l'extérieur, si je peux utiliser ce terme-là, et pouvoir avoir cette continuité, disons, dans cette lutte qui est la grève de la faim, qui est un outil vraiment qui est spécifique aux prisonniers. Et le but et notre responsabilité en tant que militants et camarades de l'extérieur, c'est de rendre ce qui se passe à l'intérieur de prison visible, entendu, et le porter le plus longtemps et le plus haut possible.
Et ce qu'on peut préciser, c'est que le camarade anarchiste dont on vient de parler est actuellement très mal en point et risque de tomber dans le coma ou même de mourir. Mais en tout cas, il est déterminé à continuer.
Canu Info. Du mercredi. Canu Info.
Ah non, vas-y maintenant, arrête, c'est à moi. Alors moi, bon, vous allez voir, bah pareil, hein, j'étais pressé, alors le début est rédigé, et puis après, non, ça va faire un petit changement de ton au milieu. Mais... depuis le coup d'État dans le coup d'État au Burkina, tout le monde se demande de plus en plus dans quelle direction on va aller, et voilà, on a quelques éléments nouveaux ces derniers jours. Alors, on revient aux épisodes précédents. Au mois de septembre, dans la population burkinabé, les gens n'étaient pas contents du tout. Il y avait eu déjà un coup d'État pour virer un président qui surtout n'arrivait pas à reprendre le dessus sur les djihadistes, c'était énormément ce qui lui était reproché, et aussi d'être trop ami avec la France. Les djihadistes au Burkina qui tuent quand même vraiment, qui massacrent vraiment pas mal de monde dans les parties du pays éloignées de la capitale. Au moment du coup d'État, le militaire qui a pris le pouvoir, le lieutenant-colonel Damiba, eh ben, finalement, il n'a pas réussi à faire beaucoup mieux que le président qu'il avait renversé en termes de combat contre les djihadistes. Et le président qu'il avait renversé, lui au moins, il avait été élu par les gens, le militaire même pas, puis là, il n'arrive pas à faire mieux. Ça commençait à être moche. Alors, à l'intérieur même de la junte qui avait pris le pouvoir, le fameux MPSR, le mouvement pour la je sais pas quoi, la rénovation... pour la sécurité et la rénovation, peut-être, un autre militaire renverse le lieutenant-colonel Damiba. Et c'est donc maintenant le capitaine Ibrahim Traoré qui est aux commandes au Burkina. Un avantage du Burkina, quand même, un avantage globalement du Burkina, mais là, anecdotiquement pour nous, de loin, c'est que la presse y est quand même bien trop libre pour qu'un quelconque militaire, même putschiste, puisse la museler. Et du coup, la presse du Burkina, c'est quand même toujours intéressant à lire, parce que, oui, c'est ça, parce que les journalistes, ils, ce qu'ils ont envie de dire, ils le disent, point final, c'est pas très négociable. Alors voilà, 3 mois après le coup d'État dans le coup d'État, une chose positive à laquelle on ne croyait plus, ça réellement, c'est que l'armée burkinabé a repris du terrain. Alors, c'est pas tous les jours qu'on va entendre dire à ce micro une chose positive, c'est que l'armée a repris du terrain. Mais là, en l'occurrence, on parle quand même vraiment d'un pays où, les terroristes, comme ils disent là-bas, les djihadistes, arrivent à moto dans des villages et tuent tout le monde dans les zones où ils se sentent assez forts pour le faire. Visiblement, derrière cette histoire de djihadisme, il y a des choses religieuses, tout ça, mais il y a quand même aussi pas mal des trucs un peu mafieux, de trafic de drogue, de maîtrise de zones de frontières, de différents trafics comme ça et contrebande, et en fait qui suffisent à justifier ce truc de tuer plein de monde, quoi. Bon, ce qui fait quand même que juste pour les gens normaux, en réalité, voir arriver les militaires, à plein de moments. Ça peut sembler contre-intuitif dans un studio de Radio Canu, mais c'est quand même un truc rassurant, une délivrance, et c'est aussi un des rares contextes dans le monde où quand une gendarmerie se fait attaquer et que tous les gendarmes sont butés et qu'on se rend compte après qu'ils avaient plus d'armes parce qu'ils avaient des armes tellement vieilles qu'elles marchaient plus et que les gendarmes eux-mêmes n'avaient pas mangé depuis plusieurs jours, ce qui arrivait à un moment cet automne. Parce que le ravitaillement n'était pas arrivé, eh ben on est en empathie pour les gendarmes. En tout cas, moi, quand je lis cette info, je suis en empathie pour les gendarmes et encore plus en empathie pour les gens qui habitent autour de la gendarmerie. Donc là, voilà, en l'occurrence, l'armée burkinabée a réellement réussi à reprendre du terrain sur les terroristes. Il faut dire qu'il y avait dans le pays des dizaines de milliers de personnes déplacées. Oui, c'est ça. Non, pardon, j'ai rédigé, mais comme j'ai rédigé vite, je reviens au bout
dessus. Là, c'est la partie où tu n'as plus rédigé ou
malheureusement, c'est la partie où j'ai encore rédigé. Mais oui, c'est ça, c'est qu'en plus des gens qui se font buter, c'est que du coup, il y a eu des dizaines et des centaines de milliers de personnes, en fait, qui sont parties de là où elles habitaient et qui, pour l'instant, habitent dans des tentes ou des bidonvilles dans les zones du Burkina où elles se sentent moins en insécurité. Bon, de toute façon, dans une tente ou un bidonville, tu te sens jamais méga en sécurité non plus, quoi. Et c'est ça. Et là, globalement, les djihadistes, ils tiennent plus ou moins 40% du territoire du pays. Alors, le fait que l'armée ait repris une petite ville qui s'appelle Solenzo, que pour la première fois, c'est l'armée nationale a gagné du terrain, pour la première fois depuis extrêmement longtemps, a gagné du terrain sur les terroristes, que des habitants sont retournés habiter à Solenzo, en réalité, c'est quand même quelque chose et quelque chose de pas mal. Malheureusement, juste après ce résultat, on a eu ce massacre dans la ville de Nouna. Et alors ça, c'est une autre catégorie de massacre. Cette fois-ci, c'est pas les djihadistes qui arrivent et qui tuent les gens. Cette fois-ci, c'est parce que dans ces coins qui sont assez éloignés de la capitale et où les gens sont en méga insécurité, les gens se sont aussi pas mal organisés en milices d'autodéfense. Ces milices d'autodéfense, c'est des jeunes qui prennent des armes. Alors bon, des armes plus ou moins selon ce qui leur tombe sous la main. Ça peut être des vieux tromblons ou ça peut être des vraies armes réellement efficaces. Et qui sont prêts à défendre leur village, leur communauté contre une éventuelle attaque djihadiste. Bon là, à Nouna, il faut dire qu'il y a eu, effectivement, semble-t-il, une attaque djihadiste. Et que du coup, les djihadistes ont buté quelques personnes, puis ils sont repartis. Et là, les jeunes armés de Nouna, les VP... les brigades patriotiques de volontaires, je pense. BPV, peut-être bien.
BPV.
Ils ont voulu réagir, et pour réagir, ma foi, les djihadistes étaient partis. Alors ils se sont dit, de toute façon, ce qui est un truc qui se dit là-bas, c'est que beaucoup des djihadistes sont peuls, ce qui semble-t-il est en partie vrai, mais bon, beaucoup, c'est pas non plus tous, ces volontaires patriotes là, ils se sont dit, bon bah c'est pas grave, il y a des peuls à côté, on y va. Et du coup ils sont allés, et là ils sont rentrés dans un quartier, ils ont juste tiré dans le tas, quoi. Et là, parmi les 28 morts qu'on a comptés au dernier comptage, mais enfin en réalité je crois qu'on continue à compter parce que tout ça date de la veille du réveillon, je pense, date du 30 ou du 31 décembre. Et du coup c'est au moins 28 morts, dont des enfants par exemple. Ils sont venus, ils ont tué du monde, ils sont repartis, ils sont revenus la nuit et ils ont pillé encore. J'ai un petit bout qui est rédigé, mais pas par moi. C'est le communiqué de presse du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, qui informe l'opinion publique nationale et internationale que ce comité est régulièrement saisi ces derniers temps pour plusieurs cas de violations flagrantes des droits humains, d'exécutions extrajudiciaires, d'enlèvements et de disparitions forcées, d'expropriation de biens de citoyens, qui implique d'une part des terroristes, mais aussi d'autre part des civils armés considérés comme des volontaires pour la défense de la patrie, c'était donc VDP. Ils racontent ce que je viens de vous raconter, et ils disent à un moment un truc qui est quand même intéressant, c'est que cette malheureuse situation mérite une attention particulière de la part des nouvelles autorités, donc ils parlent de cette histoire de coup d'État dans le coup d'État. Au risque de retomber dans les mêmes erreurs commises par les pouvoirs précédents, les groupes armés terroristes surfent sur ces types de dérives au sein des populations pour pouvoir assurer leur recrutement. Parce qu'en fait, ce qu'ils disent là, ce qu'ils expliquent et ce qu'ils développent après, mais que moi je vais resynthétiser, c'est qu'en réalité, pour le recrutement des djihadistes, les djihadistes, après un coup comme ça, ils vont bien plus recruter chez les Peuls. Mais à ce moment-là, ils vont envoyer des Peuls aller attaquer d'autres gens, d'autres ethnies, et qu'après, ils vont aller recruter chez ces ethnies. Enfin, voilà, ils jouent vraiment sur ce truc-là, mais à la fin, ils recrutent chez tout le monde en jouant les uns contre les autres. Voilà, en tout cas, ça c'est une nouvelle tâche pour le gouvernement, et pour l'instant, c'est encore trop tôt pour savoir si ce gouvernement tel qu'il est aujourd'hui va essayer sérieusement de faire quelque chose contre ces tueurs-là, les tueurs des volontaires des défenses de la patrie, des VDP, ou si, alors bon, bien sûr, il y a eu un communiqué du gouvernement tout de suite pour dire que, oh là là, c'était très grave, il fallait pas faire ça, et qu'une enquête était lancée et que toute la lumière serait faite. Ça peut vouloir dire qu'ils vont le faire réellement, ça peut aussi vouloir dire qu'ils vont se payer de mots, parce que c'est compliqué, ça va être compliqué d'attaquer des milices qui elles-mêmes se mettent en place pour pallier l'insuffisance de l'armée. Alors ça, on ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire. Voilà, et parallèlement quand même, l'autre chose qui s'est passée au Burkinabé hier, c'est que l'ambassadeur de France s'est fait dégager. Alors pour l'instant, il ne s'est pas fait dégager, on l'a prié de se barrer. Et pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'ils veulent plus d'ambassadeur de France, ça veut dire qu'ils en veulent un autre. Il semble que le problème de cet ambassadeur de France, ça a été qu'il ait dit un ou deux trucs sur le fait que ça ne marchait pas si bien la lutte contre les terroristes, et entre autres, qu'il ait invité les résidents français de certaines zones du Burkina, qui jusque-là étaient des zones où on considérait encore que c'était possible pour des expats d'aller habiter. Et là, qu'il ait dit, maintenant c'est une zone rouge en fait, et qu'il ait, je ne me rappelle plus, il a invité instamment, je crois, les Français présents dans ces zones à se rapatrier sur la capitale, parce qu'il considérait que ces zones étaient dangereuses. Pour le pouvoir burkinabé, ça c'est du défaitisme, et ils ont déjà viré il y a quelques semaines une envoyée de l'ONU qui avait un peu pour le même genre de truc. Alors bon, en soi, que les gens du Burkina, mais je l'ai déjà dit mille fois ce micro en fait, mais tant pis, je vais le répéter, que les gens du Burkina virent des Français, s'engueulent avec la France, ça semble être très sain. Et c'est de fait dans tous les journaux, non seulement burkinabé, mais aujourd'hui je suis tombé sur un article d'un journal guinéen, bon, que j'ai trouvé dans le courrier international, qui disait ça aussi, qui disait en fait les Français, très bien, qui dégagent, mais ce que tout le monde craint derrière, c'est le moment où ce gouvernement burkinabé va dire les Français qui dégagent, par contre, on va quand même pas y arriver tout seul, et du coup, ce dont on a besoin, c'est du soutien des Russes. Et à ce moment-là, si réellement ils invitent les Russes à venir avec des forces armées, à la fin, ça va être les milices, les très fameuses et très sinistrement fameuses milices Wagner, et qu'à ce moment-là, c'est possible que les populations qui se retrouvent à faire face à ces milices regrettent les militaires français aussi, dégueulasse soit-il par ailleurs, parce que je dis pas du tout ça pour défendre les militaires français, hein. Et surtout pas au Burkina, où entre autres, ils bombardent des mariages en disant après, on n'était pas là, on n'a pas d'avion, et en plus c'était des terroristes, et d'ailleurs, il n'y a pas eu de mort, et d'ailleurs, on a bien fait de les tuer. Voilà, mon info est terminée.
Canu Info.
Alors, on était en Afrique de l'Ouest et on part en Afrique de l'Est cette fois-ci. Et pardon, c'est du côté de la Somalie où 9 personnes ont été tuées ainsi que plusieurs autres blessées dans un double attentat à la voiture piégée hier matin. Cette attaque a eu lieu dans le centre de la Somalie à Mahas. L'attentat est attribué au groupe djihadiste Harakat al-Shabaab al-Mujahideen, affilié à Al-Qaïda et plus couramment appelé le groupe djihadiste des Shebab. Leur objectif, créer un état islamique en Somalie. Depuis plusieurs mois, une offensive a été lancée contre ce groupe mené conjointement par des milices claniques et l'armée somalienne, un peu, on imagine, sous la forme que tu décrivais au Burkina, c'est-à-dire que l'armée s'appuie également sur des milices plus locales et plus organisées, plus auto-organisées. Selon plusieurs témoins, les explosions ont eu lieu près d'un restaurant situé non loin d'un bâtiment administratif. Et si depuis 2007, le groupe terroriste mène des actions sanglantes dans le pays, ils ont quand même été chassés des principales villes du pays en 2011-2012, mais reste quand même bien implanté avec des appuis en zone rurale. Depuis juillet, l'armée s'est donc alliée avec des milices locales afin de mener une guerre totale, d'après ces termes, au groupe islamique. islamiste. Cette union reçoit également le soutien de l'armée américaine avec des frappes aériennes, ce qui n'empêche pas les insurgés de réagir par des attaques en plein centre-ville. Le 29 octobre, deux voitures piégées ont explosé à quelques minutes d'intervalle de la capitale de Mogadiscio, tuant 121 personnes et en blessant 333 autres. Un triple attentat à Beledweyne, dans le centre, chef-lieu de la province de Hiran, avait fait 30 morts, dont des responsables locaux, et début octobre, et au moins 21 clients d'un hôtel de Mogadiscio ont été tués en août dans un spectaculaire assaut de 30 heures. On en avait tout ça très très vaguement entendu parler, bon, que ce soit ici, faut bien l'avouer, mais aussi dans toutes la presse nationale. Et voilà.
Bah, il est temps de se barrer.
Et ben voilà, c'est 19h37, c'était des infos demi-courtes. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés et bonne fin de semaine à vous.
Au revoir.
Radio Canu. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.